CFM Cahors, le mag.
Bienvenue dans votre mag sur CFM Cahors. Nous sommes vendredi, c'est l'heure des coups de cœur de lecture de nos libraires indépendants. Nous allons être dans quelques instants avec Nathalie de la librairie Calligramme à Cahors. Alors non seulement on va vous donner ces deux coups de cœur, mais surtout à la fin, eh bien, elle vous expliquera pourquoi il faut commencer à commander ces livres et même à les acheter pour Noël, parce qu'il y a un gros problème, on est en pénurie de papier et elle va tout nous expliquer sur ce mode de fonctionnement. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. De retour dans votre librairie, hein, comme chaque semaine, d'ailleurs entre parenthèses, des idées de lecture aujourd'hui qui vous sont proposées par Calligramme, mais avec des livres que vous pouvez trouver bien sûr chez vos libraires indépendants. Bonjour Nathalie.
Bonjour Yannick.
Nathalie, elle a trouvé le truc maintenant, c'est qu'elle a le cahier où elle écrit ses chroniques.
Oui.
Comme voilà. Ça au moins, tu as la collection là.
Je deviens super pro.
Ah, je vois ça, même mieux que moi. Alors, premier livre aujourd'hui.
La disparition de Jim Thompson,
ouais,
de Vincent Hayne chez Arléa.
Bon, alors, de quoi nous parle-t-il de la disparition de Vincent, de Jim Thompson?
De Jim Thompson. Alors, en fait,
c'est bien. Bah maintenant, on peut arrêter, on peut passer au livre suivant.
Oui, parce qu'en fait, tu connais la fin quand tu débutes le bouquin.
Ah. Alors, quel est l'intérêt de le lire?
Ah, et oui, c'est. Alors, pour une raison très simple, c'est que Jim Thompson a vraiment existé, hein, et que effectivement, le 26 mars 1967, il disparaît.
Alors, c'est qui d'abord Jim Thompson?
Jim Thompson, c'est un Américain,
ouais,
qui va tomber amoureux de Bangkok. Mmh. Il ira parce qu'il va s'engager dans l'armée. Et il aura un poste à Bangkok. Il tombera amoureux de Bangkok, il y restera. Et il va devenir une figure que tous les Thaïs connaissent, puisqu'il va faire renaître en quelque sorte le savoir-faire des Thaïs concernant la soie. Ils sont fileurs de soie, ils ont une soie et un savoir-faire extraordinaire. Et il va créer la compagnie Thaï de la soie. Donc, il habite à Bangkok. C'est
c'est une histoire vraie. Hein.
C'est une histoire vraie.
D'accord.
On est à la fin des années 60. Il est amateur d'art, esthète. C'est une figure aussi un peu jet-setteuse, puisque dans sa maison, on pourra rencontrer Truman Capote, Bob Kennedy, Somerset Maugham. Donc, à la fois, il fricote avec le milieu politique, avec les intellectuels, les acteurs de cinéma. Hollywood vient à Bangkok dans sa maison. Et puis, en mars 1967, il est un peu fatigué, il part chez des copains en Malaisie. Il va faire une balade une après-midi et il ne réapparaîtra plus jamais. Alors, l'intérêt de lire un bouquin alors que tu connais la fin, c'est vrai que
oui.
La question est excellente. Alors, déjà, parce que ça fait revivre une époque hyper intéressante, un peu surannée, qui est aussi cette époque où les Américains, ce que je ne savais pas d'ailleurs, inondent, cette époque donc où les Américains inondent la Thaïlande de dollars pour que les Thaïs aient un bon niveau de vie, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, pour ne pas qu'ils plongent du côté obscur de la force, c'est-à-dire du côté des communistes. Ils ont déjà le Vietnam et ça leur suffit. Mmh. Cette époque aussi où il y a encore un relent colonial avec en Asie les Français, bien évidemment, mais aussi les Anglais. Cette époque où il y a encore des espions, puisque c'est la guerre froide. Ouais. Et Jim Thompson, entre autres, il a fait partie de l'OSS. Et l'OSS, c'est l'ancêtre de la CIA. Quand il était dans l'armée, il n'était pas vraiment que dans l'armée, il était aussi dans l'OSS. Et c'est certainement la cause de sa disparition. La CIA, donc, puisque l'OSS n'existe plus, lui reproche une amitié un peu forte avec un ancien homme politique thaï, mm-hmm, qui a été battu aux élections, banni de son pays et qui a fui dans la Chine communiste de Mao. Et Jim Thompson, qui était son ami, continue d'entretenir des relations, semble-t-il, amicales avec lui, mais la CIA se méfie et a peur que Jim Thompson ne devienne une sorte d'espion double et de taupe.
Là, tu nous as tout raconté, du coup.
Oui, mais tout est dit. Sauf qu'en fait, ce livre est extraordinaire d'abord par la finesse des personnages. Donc, ça commence effectivement le jour de sa disparition. Donc, et on sait très bien qu'on ne va pas le retrouver. Mais ensuite, il va y avoir des flashbacks sur sa vie. Il va y avoir aussi une très belle analyse de tous les amis qui vont essayer de le chercher. Et puis, il va y avoir aussi un point de vue très intéressant d'un Américain qui va avoir des idées très novatrices par rapport à la colonie, qui est excessivement critique par rapport aux colons, qui, alors, je vais citer, qui a vu les résultats catastrophiques de la colonisation française, entre autres Laos, et voici ce qu'il disait. Un individu se construit dans son environnement. Si les structures juridiques, économiques, éducatives s'étiolent au point de n'être plus ce que les hommes sont en droit d'attendre d'elles, alors surgissent d'insurmontables difficultés.
Vous avez 2 heures.
Vous avez 2 heures.
Pour réfléchir
à ça. Alors, à cette époque, c'est très novateur. C'est une phrase qui peut s'appliquer à notre société, effectivement, d'aujourd'hui. Donc, c'est non seulement l'occasion de se replonger dans une époque un peu surannée, mais c'est aussi l'occasion de découvrir un personnage extraordinaire qui souhaitait que les Thaïs continuent à avoir leur atelier de fabrication artisanaux, alors que l'ambassade américaine lui disait « on ferme tous les ateliers et on construit des grandes usines ». Et incroyable aussi, qui souhaitait qu'à sa mort, sa compagnie revienne à ses fileurs, au peuple thaï, à ses artisans. Lui, de toute façon, en plus, il était riche, il n'avait pas d'enfants, il avait hérité de ses parents. Donc très novateur aussi en tant que chef d'entreprise, puisque il ne concevait pas de ne pas tenir compte de ses travailleurs et du savoir-faire ancestral qu'il mettait en avant. Ça se lit comme un policier, bon, alors, ça attends. Se lit comme un roman d'aventure.
Alors attends, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un document, est-ce que c'est un roman
c'est
documenté
un roman.
Ou est-ce que c'est un document romancé?
Non, c'est un roman.
C'est un roman.
C'est un roman, c'est-à-dire qu'il part...
Mais tout est vrai, il n'a rien inventé le gars, l'auteur?
Ah, alors, tout est vrai, il n'a rien inventé.
Mais il y a des hypothèses.
Voilà, la seule chose, c'est qu'en fait, lui va prendre parti pour une hypothèse alors qu'il y en a deux. Les deux hypothèses sont, il a été enlevé par la CIA et il est mort et enterré à pratiquement le jour de son enlèvement, ou alors ils l'ont fait parler quelque temps et ils l'ont tué. La deuxième hypothèse, il se savait en danger.
Il a fui.
Et du coup, il a tout simplement orchestré sa propre disparition pour ne pas être tué par la CIA. Et l'auteur, lui, penche plutôt pour le fait qu'il a orchestré son propre enlèvement.
Si ça se trouve, il est dans la même île qu'Elvis Presley, Johnny Hallyday, Michael Jackson et Prince, quoi. Hein? Donc, si ça se trouve, qui sait. La disparition de Jim Thompson, j'ai oublié le nom de l'auteur.
Vincent Hayne.
Vincent Hayne.
Chez Arléa.
Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Et le deuxième livre donc, que tu nous proposes, Nathalie, c'est L'ours. Alors, rien à voir avec le film de Georges Acano. Hein.
Rien à voir.
C'est qui, là, cette fois, alors?
Ah, ben, c'est pourtant, c'est un vrai ours aussi. Hein.
Ah ouais, d'accord. Ah.
Mais lui, il parle.
Ah.
Dans Jean-Jacques Hano, il parle pas.
C'est vrai.
Alors, c'est l'ours d'Andrew...
Là, tu m'interpelles, là, du coup. Ouais.
L'ours d'Andrew Krivak.
Un ours qui parle, bien sûr.
Ouais.
Oui.
Mmh. Chez Globe. Mmh. Alors.
Ça doit être de la bonne, à Calligramme. Hein.
C'est un conte.
Ah, d'accord.
C'est okay. Un conte pour adultes. D'accord. Il faut se laisser porter.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu lis le fameux passage où l'ours apparaît et qu'il se met à parler à la fille, si tu n'y crois pas, il faut refermer le bouquin. Très franchement, moi, ça m'a semblé évident. Ça veut dire aussi, du coup, que l'auteur est fantastique, ce qui est le cas, et qu'il sait bien amener ses personnages. Alors, dès les premières pages, tout est dit. Les personnages n'ont pas de prénom, c'est la fille et le père. Mmh. Donc, dès les premières pages, tout est dit, la fille et le père sont seuls. On ne sait rien de ce qui est arrivé aux autres. Alors, cela importe peu, mais ce que l'on sait, c'est que ce sont les seuls survivants, certainement, sur Terre. Et ils sont dans une sorte de paysage de terre originelle. Ça ressemble au Canada, avec une course des saisons très contrastée. Il chasse, il pêche. Donc d'abord, c'est un bouquin extraordinaire puisque c'est un ode et un hommage à la nature. Et à un moment donné du livre, donc on les voit d'abord vivre, avec au tout début une petite fille, hein, puisque quand le livre commence, elle a 4 ou 5 ans, et son père, progressivement, va lui apprendre à chasser, à pêcher, à construire des mocassins, va lui apprendre à faire un arc, une canne à pêche. Et un jour, il lui dit, il va falloir qu'on entreprenne un grand voyage, on va très loin, puisqu'on va à l'océan. Et pourquoi on va découvrir l'océan? Pour une raison très simple, c'est qu'il nous faut du sel. Il faut que je reconstitue ma quantité de sel, parce que c'est le seul moyen pour conserver, entre autres, la viande.
Oui.
Donc, ils vont entreprendre un très long voyage, au cours duquel le père va être attaqué par un animal sauvage, va être blessé et va mourir. Tu me diras, je raconte tout le livre? Non. Parce que là...
C'est bien, t'anticipes mes questions.
Mais... Non, oui, j'aime. Non, parce qu'en fait, là, à un moment donné, un ours va apparaître. Et on est dans un pays où les ours parlent. Parce qu'en fait, l'auteur part du principe que les ours parlent, les animaux parlent.
Mais c'est connu.
Les arbres parlent.
Oui, bien sûr.
Les plantes parlent.
Oui, ils me racontent toujours des trucs. Oui.
Et l'homme ne sait plus les entendre.
Ah, d'accord. Ok, là, on est dans un autre...
On est dans une autre dimension.
Ouais.
Dans une autre philosophie, voilà. Et donc, cette jeune fille, elle a été nourrie par les contes de son père, qui lui racontait qu'il y a très longtemps, les ours et les hommes conversaient ensemble. Donc quand l'ours arrive et lui fait comprendre qu'il va l'aider et lui parle, ça lui semble absolument limpide. C'est une ode à la nature, c'est aussi un voyage initiatique, puisqu'elle va du coup être orpheline, elle va être seule sur Terre. Il n'y a pas d'ambiance que l'on peut retrouver dans les romans post-apocalyptiques avec guerre nucléaire. Là, c'est une Terre originelle. Il n'y a plus d'hommes, mais c'est la nature qui reprend ses droits.
C'est fait pour des adultes, ça, quand même.
C'est fait pour des adultes. Ah oui, non, c'est...
Parce que là, comme ça, on pourrait croire qu'effectivement, ça pourrait ne pas intéresser des adultes.
Non. Ça, c'est un bouquin pour adultes. C'est effectivement un conte, mais c'est un conte pour adultes. C'est un conte aussi avec un message très fort, hein, qui nous dit que, tout simplement, l'homme ne sert à rien.
Bon, ça, vous l'avez déjà remarqué, mais...
Voilà, donc c'est une ode à la nature. Ça n'est pas triste, ça n'est pas pessimiste, puisque la manière de présenter ce monde où il ne reste plus qu'un père et une fille n'est pas triste. C'est une réalité, c'est comme ça. Mais Dieu que la nature est belle, et Dieu que les animaux aussi sont des êtres qui prennent soin les uns des autres. Et il y a un système, un écosystème absolument magnifique, dans lequel, du coup, cette fille va devoir se confronter seule. Mais ça n'est pas non plus quelque chose qui est compliqué pour elle. Donc, alors, je ne suis pas forcément conte pour adultes. Ce n'est pas une littérature vers laquelle je vais aller. Mmh. Par définition, un lecteur, il a aussi une imagination. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Et ça fonctionne très bien. Très, très bien. C'est-à-dire que je suis persuadée que tout le monde se prend au jeu. Mmh. On ne va pas se dire, non mais attends, c'est bon. Un ours qui parle, on ne me la raconte pas. Okay. C'est une évidence, et c'est aussi en ça que c'est magnifique. Et quand tu le refermes, c'est partie des bouquins qui font du bien.
Bon, en tout cas, on sait que les animaux prennent soin les uns des autres, et c'est ce que dit la lionne à ses petits quand elle va chasser. Viens, on va prendre soin de la gazelle. ça s'appelle L'Ours. Bon, en tout cas, on rigole beaucoup, mais c'est un conte à lire, L'Ours, aux éditions Globe. Et rappelle-nous l'auteur, s'il te plaît. Nathalie.
Andrew Krivak, qui, comme son nom ne l'indique pas, est américain.
Effectivement. Bon, voilà, vous savez quoi lire. En plus, c'est bientôt Noël. Et il nous reste encore deux chroniques avant Noël. Hein, mais vous pouvez prendre, vous pouvez déjà prendre vos commandes ici, chez Librairie et à la Librairie Calligram.
Et à toutes les librairies indépendantes. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous le savez déjà, nous sommes en pénurie de papier cette année et nous avons déjà beaucoup de titres qui ne sont plus disponibles. Donc,
en pourcentage, ça fait quoi?
Ça va être très 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 compliqué. Alors, ça tombe tous les jours, hein. C'est-à-dire que tous les jours, on apprend que tel livre n'est plus disponible. On a fait des stocks, comme tous les libraires indépendants, on a fait des stocks qu'on ne fait pas d'habitude, pour justement pouvoir satisfaire les désirs de nos clients. Mais il est évident que cette année, il y aura des loupés et on n'y pourra absolument rien.
Quel genre de livres sont en pénurie alors là ?
Ça sera des BD.
Ah oui ?
Oui, parce que par définition, les BD sont souvent tirés à des exemplaires beaucoup moindres que les romans. Mais par exemple, la difficulté pour nous pour avoir le Goncourt a été incroyable. En principe, le Goncourt, on arrive à l'avoir 48 heures après. Il nous a fallu pratiquement 10 jours hein, pour avoir le Goncourt. Donc, ce qui est absolument anormal. Alors, pour deux raisons. C'est un petit éditeur qui l'a eu et c'est tant mieux. Donc du coup, forcément, beaucoup moins de logistique.
Ils n'avaient pas prévu au niveau...
Alors, c'est difficile à prévoir. Hein. Et ensuite, pénurie de papier, problématique de logistique. Donc, tout est très, très, très compliqué. Aujourd'hui, on était avant livré en une semaine, on est maintenant livré à 15 jours. Donc, la chaîne du livre est en train de s'effondrer. Et elle s'effondre au meilleur moment, c'est-à-dire Noël. C'est une catastrophe. Surtout pour nos clients.
Et c'est dû à quoi cette pénurie papier au final ? Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors c'est une pénurie mondiale. Le fait que les usines aient fermé pendant 2 mois et plus dans certains pays, le retard n'a pas été rattrapé.
Vous n'avez pas résorbé le retard de production ?
Le retard de production n'est absolument pas rattrapé. Ça c'est la première problématique. Dans les entrepôts en France, vous avez aussi beaucoup de manutentionnaires qui sont partis. Il y a un gros problème pour recruter. Il est possible que les salaires ne soient pas forcément attractifs et que le métier soit particulièrement dur et très dévalorisé. Donc pénurie de main-d'œuvre, pénurie de papier et pénurie mondiale de papier. Pénurie de bois, tu en as entendu parler. Donc pénurie de papier.
Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va revenir à la normale ? Est-ce qu'on vous donne un terme ?
Non. Très franchement, non. Là, ça serait mentir que de dire un chiffre. Tous les ans à Noël, c'est compliqué. Ça, c'est normal.
Et particulièrement cette année.
Mais cette année, c'est beaucoup plus compliqué que les autres années. Ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça se répercute justement sur les chiffres de vente aussi, dans un magasin, dans une librairie, ou est-ce que les gens se reportent sur d'autres livres ?
Alors, ils se reportent sur d'autres fournisseurs.
Ah, fournisseurs.
Eh oui, puisqu'en fait, le libraire indépendant ne peut pas acheter 200 exemplaires de tous les livres. Hein. Moi, j'ai acheté 200 exemplaires de certaines BD comme par exemple Astérix, mais Amazon va en avoir des milliers. Donc moi, quand j'apprends qu'un livre n'est plus disponible aujourd'hui et que je ne pourrai pas l'avoir pour Noël, eh bien, tu vas sur Amazon et eux vont l'avoir. Puisque quand il y a pénurie, malheureusement, certains gros fournisseurs fournissent Amazon et pas les librairies indépendantes.
Ça veut dire également que quand on est une petite librairie, ça veut dire qu'il faut engager une certaine somme d'argent
oui.
pour éviter d'être à court. Quoi.
Oui.
Donc c'est parfois un gros sacrifice pour certaines boutiques.
Alors, c'est surtout un pari très risqué. C'est-à-dire, c'est engager effectivement des sommes en se disant « je vais le vendre » et en espérant de le vendre. Et effectivement, commander beaucoup plus que d'habitude pour être sûr de ne pas manquer, il faut pouvoir le faire. Et puis, il faut ne pas perdre le pari.
D'accord, donc c'est vraiment le moment, quoi, en fait.
C'est vraiment le moment de commencer les cadeaux de Noël et surtout de faire les commandes. L'an dernier, on avait arrêté de prendre des commandes aux alentours du 16-17 décembre. Je pense que cette année, on va arrêter bien avant le 15 décembre, parce qu'on ne sera pas sûr de les recevoir.
Alors là, on parle de ta librairie, là, Calligramme à Cahors.
Toutes les librairies indépendantes ont la même problématique, puisqu'on a un groupe hein, de librairies indépendantes du Lot. On discute entre nous, on a toutes et tous, puisque nous avons maintenant un homme à la tête d'une librairie. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que des femmes dans le Lot. On a tous la même problématique et on essaye tous de voir comment on peut faire pour résoudre les problématiques, mais... c'est plus fort que nous, quoi.
Est-ce que vous êtes soutenu par des syndicats de librairies ? Est-ce que ça existe déjà ?
Oui, le syndicat de la librairie française, effectivement, qui essaie de nous aider et qui fait avancer les choses, puisque par exemple, aujourd'hui, alors à court terme, hein, puisque la loi a été votée, mais pas le décret d'application, Amazon n'aura plus le droit d'envoyer un livre pour 1 centime. Parce que moi, tu me demandes de t'envoyer... Eh oui, tu me demandes de t'envoyer un livre. Je vais à la poste et je vais te dire ça va te coûter 5 euros. Avec Amazon, ça va te coûter 1 centime. Donc, les frais de livraison, maintenant, vont être identiques pour tous.
C'est quand même assez injuste de la part des gros fournisseurs, enfin même plutôt des gros éditeurs, parce que mine de rien, même si vous en vendez moins que certaines plateformes, ce sont toujours des livres en plus.
Ce sont toujours des livres en plus. Alors attention, tous les éditeurs ne font pas ce pari-là. Hein. Et énormément d'éditeurs accompagnent les librairies indépendantes et de très belles façons. Mais effectivement, certains gros éditeurs, on va dire les plus gros, par définition, ont de toute façon tendance à privilégier les plateformes plutôt que les librairies indépendantes, c'est une évidence.
Et ça ne vous donne pas envie de les boycotter, vous ?
Alors, c'est une question qui se pose. Effectivement, on y a déjà pensé. Je connais un libraire qui a boycotté une des plus grosses maisons d'édition et qui arrive à vivre. Je ne sais pas comment elle fait. C'est une décision qu'elle a prise.
Parce que la plus grosse maison d'édition, c'est un sacré chiffre d'affaires, on va dire, si je puis dire.
Oui, et puis c'est surtout que, par définition, je n'ai pas ces livres en librairie, donc ça m'enlève aussi une offre. C'est très compliqué hein, de boycotter une maison d'édition.
Et puis par définition aussi, quand quelqu'un veut un livre, de toute façon, il va finir par le trouver ailleurs.
Exactement. Alors, je t'ai présenté aujourd'hui deux livres dans deux maisons d'édition qui sont certainement inconnues du grand public, qui sont Globe et Arléa. Et justement, c'est aussi, et c'est très important, le métier de libraire indépendant permet de mettre en avant des maisons d'édition comme Globe ou Arléa, qui ne seront pas mises en avant dans les grandes surfaces qui vendent du livre et qui ont toute leur place dans la littérature d'aujourd'hui et qui font un vrai travail d'éditeur, un vrai travail de découvreur de talents ou de traduction de manuscrits comme pour L'Ours. Et Globe, par exemple, est une maison d'édition qu'on met beaucoup en avant à la librairie, comme un culte dont j'ai déjà parlé. Et c'est, alors forcément, ces maisons d'édition-là nous accompagnent et c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'ils ne vivraient pas sans les libraires indépendants et on ne vit pas non plus sans eux. Mais ce partenariat-là n'existe pas avec d'autres maisons d'édition.
Et ben voilà, donc vous savez à quoi vous attendre maintenant. Si vous voulez vos livres, commencez à venir les commander dès maintenant chez vos libraires indépendants et vraiment soutenez les libraires indépendants qui sont là près de chez vous. Ça sert à rien d'aller dans les grandes plateformes, on le dit toujours. Eux, ils sont là pour le conseil. En plus, vous pouvez toucher le livre, vous pouvez le lire le résumé, vous avez le sourire en plus, vous avez la... Voilà, donc il faut tout simplement y aller et prenez vos précautions parce que ce Noël va être dur pour les livres. Merci Nathalie.
Merci à toi Yannick. Losing the stars without a sky. Losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Lock you up in a sad, sad zoo. Oh, hidey, hide. You're hiding what you're trying to prove. Hidey, hide. You're not worth a thing. So your fortune's on a string. Very violent flight. You will be changed and everything. You'll be in a very sad, sad zoo.
Dave Gahan avec The Soul Savers pour ce titre Metal Hurts est terminé. Ce magazine que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur cfmradio.fr et puis en rediffusion tout à l'heure à 17h et à 21h30. Merci de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. On reste ensemble pour l'après-midi. Dans quelques instants, le journal.